Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une belle journée. Bienvenue aux amateurs de sport, édition complète ce soir, au cours de laquelle nous recevrons Steve Bégin qui va nous parler de sa décision de renoncer à son poste d'entraîneur adjoint avec les Voltigeurs de Drummondville après une belle année, une belle expérience. Lui qui a constaté que les jeunes ont beaucoup plus de talent que lui à son époque junior, mais qu'ils ont probablement pas mal moins de caractère sans tous les mettre dans le même panier. Aussi avec nous ce soir, Joanne Villeneuve et Jean-Pierre Saint-Jacques. Jean-Pierre Saint-Jacques a fabriqué la première Formule Ford de Gilles Villeneuve. Ils sont devenus des amis. Va nous raconter une visite qui l'a amené à Monaco en hélicoptère avec Gilles Villeneuve jusqu'à Imola où il a rencontré Enzo Ferrari. Un moment de radio à ne pas manquer pour les nostalgiques de cette époque de Gilles Villeneuve. Et aussi avec nous tout à l'heure avec des commentaires notamment sur la possibilité de voir un Eric Carlson débarquer à Montréal, nul autre que Philippe Quentin. Mais dans un premier temps, replongeons-nous dans l'ambiance d'hier à Saint-Louis.
Petrangelo will carry it back in. Fires a slap shot. Rebound score!
Quand on dit que les meilleurs doivent être les meilleurs, eh bien, c'est ce qu'a incarné Ryan O'Reilly pour les Blues de Saint-Louis hier, marquant deux buts, dont le but gagnant. Mario Tremblay est avec nous. Bonsoir, Mario.
Oui, bonsoir, Mario.
Les meilleurs font la différence?
Mario, depuis le début de cette série-là, on dirait que lorsque les Blues de Boston ont gagné, les meilleurs joueurs des Blues ont été meilleurs que ceux des Blues de Saint-Louis. Mm-hmm. Alors, hier soir, ce fut le cas hier pour les Blues. On vient d'entendre le sonore là, sur le deuxième but marqué par O'Reilly, qui a disputé, fort possiblement, son meilleur match de cette série finale-là pour les Blues de Saint-Louis. Alors, c'est ça, Tarasenko, son 11e. Alors, puis ce que j'ai remarqué dans cette rencontre-là, tu sais, on sait tous que les Blues, quand même, avaient le dos acculé au pied du mur. Les Blues mènent 2-1, les Blues ne peuvent pas se permettre d'échapper à ce match-là. Alors, on sort avec le couteau entre les dents. Première présence du gros trio des Blues, bang! On a vu O'Reilly marquer à 43 secondes au début du match. Puis là, la foule a embarqué là-dedans. Mais il faut quand même aussi donner crédit aux Bruins.
Ah oui.
Les Blues prenaient devant 2-0. Les Bruins réussissent à revenir 2-2. Mais par la suite, écoute, alors, je regardais ça, les lancers ce matin. 38 pour les Blues. 23 tirs seulement pour les Blues de Boston. Alors, on peut dire, Mario, sans trop se tromper ce soir, que les Blues de Saint-Louis ont joué un match parfait, un match intense pendant 60 minutes, mon chum.
Ça sent, Mario, à l'œil, même à la télévision, ouais, dans nos salons, quand les gars laissent toute sa glace, là, hein. Yeah. Et O'Reilly a été vraiment un chef de file hier. Et je disais à Daniel Brière, qui a joué avec O'Reilly au Colorado, oui, que mm-hmm, je pensais pas qu'O'Reilly pouvait avoir un impact comme celui-là. Tu te rappelles, on parlait peut-être de lui venir à Montréal avant qu'il s'en aille à Saint-Louis. Ouais. Puis mm-hmm, je disais bien candidement à Daniel, j'aurais pas pensé qu'il pouvait avoir un tel impact. Et hier, tu sentais dès ses premiers coups de patin, même en désavantage numérique, il a failli compter une autre fois. Je sens désavantage, mais tu sais, sur l'échappée, quand il a donné un coup, ça a failli passer à côté du poteau, tu vois,
exact,
l'image.
C'est un désavantage numérique.
Mais tu sentais que ça se voit. Là, tu sais, un gars qui nous dit qu'il a donné son plein effort, on le sait quand c'est vrai puis quand c'est pas vrai, mais hier, ils ont tout laissé sur la glace.
Mais Mario, tu vois, là, pour les gens qui nous écoutent là, dans leur voiture là, ou à la maison là, présentement, quand on entend des choses négatives sur un joueur, ce qui était le cas avec O'Reilly, avec l'Avalanche du Colorado. Puis je me souviens des fois quand le Canadien a fait des transactions, on a amené des joueurs à Montréal, puis je me souviens lorsque Michel Therrien dirigeait le Canadien de Montréal, il disait, écoutez, ce qui s'est passé dans le passé, moi ça m'intéresse pas. Moi là, c'est moi son entraîneur maintenant, c'est moi qui va vivre avec, puis on verra comment ça va se débrouiller. Alors faut faire attention bien souvent, même si des fois on entend des choses négatives sur un joueur dans une équipe de hockey, on sait pas, peut-être que le gars est malheureux, peut-être
c'est pas de sa faute tout le temps non plus, ben, des fois,
t'sais, on dit qu'une médaille c'est à deux côtés, alors c'est pas toujours la faute du joueur. Peut-être que le gars s'entend pas bien avec son entraîneur. Il y a un paquet de raisons pour lesquelles, des fois, un joueur ne produit pas à la hauteur de son talent. On a eu ça prendre Max Domi, un exemple. Donc, tiens, on va aller là direct. On prend Max Domi également. C'est la même affaire en Arizona. Il était pas heureux, s'entendait pas bien avec son entraîneur. On critiquait pour son offensive. Bang! Soudainement, on fait l'échange de Domi pour Galchenyuk. Et là, regarde, fini le premier marqueur du Canadien l'année passée. Et il a été un joueur électrisant, extraordinaire, qui est devenu, en fin de compte, l'un un joueur préféré des partisans du Canadien de Montréal. Alors, faut faire attention, je me répète, quand on fait des transactions, des fois, alors le directeur gérant, faut qu'il mette ses culottes, et ça y prend également de la bonne information quand tu fais des transactions comme
tellement
ça.
Tellement. Mais je t'avoue que je suis curieux de voir comment Domi va enchaîner à une très belle année comme celle qu'il a connue à Montréal. Permets-moi une parenthèse de la finale, puisque tu parles de Domi dans la conversation. Oui. On est tous curieux de voir s'il va être capable de répéter la saison prochaine.
Mais sais-tu quoi, moi, je suis pas inquiète. Puis je suis pas inquiète, mais je vais te dire pourquoi. Parce que moi, je trouve que ce que j'ai aimé de Max Domi, on dit que l'arbre, la pomme tombe jamais loin de l'arbre. Tu sais, il y a le caractère du bonhomme, là.
Ben oui.
Puis moi, je pense qu'il aime ça jouer à Montréal. Il l'a prouvé cette année. Puis je pense aussi que le fait que, comme Marc Bergevin l'a mentionné, comme groupe de gars, cette équipe-là a eu du plaisir à jouer ensemble l'an passé. Puis je pense que les gars savent très, très bien là qu'ils ont raté des séries par 2 points et qu'ils peuvent accéder aux séries éliminatoires. Évidemment, Marc va faire quelques ajustements à sa formation. Mais tu sais, si on regarde un peu, on regarde ça un peu là, rapidement. Tu sais, l'année passée, souviens-toi, en début de saison, Carey Price disait que c'était lui à régler ses problèmes dans sa tête.
Oui.
Alors, mettez Carey Price dans un début de saison là où il est vraiment à la hauteur de la situation.
Il a retrouvé sa confiance, là. C'est plus à refaire. Ben,
puis tu sais, on a manqué série par 2 points. Alors, si Carey est capable, s'il a un bon début de saison, d'aller chercher à lui seul 5-6 points de plus, alors déjà là, si Marc apporte des corrections à son équipe, ben moi, je pense que le Canadien va être en bonne position pour faire les séries.
Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Et ce qu'on constate, finalement, c'est que les meilleurs font gagner leurs équipes. C'est sûr que tu as besoin d'un but du quatrième trio de temps en temps, et c'est oui. Là. Mais être les meilleurs dans 2 matchs de suite, ça semble difficile quand tu affrontes une bonne équipe. Hein? Parce que là, on s'échange des victoires. T'sais. Ça a été, y a pas eu 2 victoires consécutives depuis le début de cette série finale-là. Non. C'est difficile d'enchaîner 2 grandes performances de suite parce que les adversaires et les défensifs sont tellement bons qu'ils s'ajustent tout le temps, ou c'est difficile d'offrir le même effort ultime, ben, Mario?
Mario, il y a un mot qui sort de là, c'est la parité, tabarouette, c'est pas compliqué. Tu sais, puis Craig Berube vantait les mérites de son 4e trio après la victoire d'hier. Son 4e trio a complètement embouteillé le trio de Bergeron. Marchand n'a pas réussi aucun tir au but. Alors, tu sais, puis les gars ont du caractère. Tu sais, t'es rendu en finale de la Coupe Stanley, c'est pas pour rien. Alors, comme j'ai dit au début de l'entrevue, les Blues ne pouvaient pas perdre ce match-là. Alors, devant leurs partisans, ils sont sortis le couteau entre les dents. Alors là, on s'en va à Boston, puis écoute, moi j'ai favorisé Boston en 7, mais ça peut aller ça peut aller d'un bord ou de l'autre. Là,
ben, comme tu le disais, de choisir Boston en 7, ça donnait un indice du fait qu'on n'était pas trop sûr.
On n'est pas trop sûr, effectivement, oui.
Mais je vais te dire, je trouve que plus la série avance, puis plus le pari de voir, ou en tout cas la possibilité de voir Saint-Louis l'emporter, prendre de la valeur.
C'est sûr.
C'est un feeling que j'ai, oui. Puis on dirait que, bon, Chara, on va voir c'est quoi son état. Quand même, tout un leader. Hein? Chara, hier, sorti du match à cause d'une rondelle au visage. Il est revenu au banc. Puis Steve Bégin va nous en parler un petit peu plus tard à l'émission. Lui qui l'a côtoyé pendant une saison complète. Je vais te dire que je pense qu'il est respecté. C'est unanime. Tu sais, outre l'incident Pacioretty, c'est sûr qu'il a peut-être terni la perception qu'on avait de Chara à Montréal ici pendant un bout. Je pense qu'on est capable de voir au-delà de ça.
Mais non, c'est sûr, parce que si Chara portait l'uniforme du Canadien de Montréal, là, avec les performances qu'il a connues avec les Blues de Boston, sans aucun doute qu'après sa carrière à Montréal, son chandail aurait été en haut dans le plafond. Puis comme tu mentionnes, c'était tellement un gars... j'ai vu à quelques reprises, des fois, il y avait une caméra dans le vestiaire des Blues. On a vu Chara parler, Patrice Bergeron... et compagnie. Mais le fait de revenir sur le banc hier, lorsqu'il a reçu la rondelle sur la bouche, tu sais, sa rondelle a dévié sur son propre bâton, des points de suture dans la lèvre inférieure, dans la lèvre supérieure. Alors, le fait de revenir au banc, les gars, tu sais, dans le fond, il a fait ça parce qu'il est le capitaine du club. Alors, ça a dit, tu sais, il a voulu quand même donner peut-être démontrer aux gars que bon, ok, je vais rester sur le banc. J'ai pas reçu le feu vert des médecins pour continuer à jouer. Mais tu sais, on regarde depuis le début des séries, Chara a été blessé 3 fois. Là, souviens-toi, lorsqu'il a été blessé à un poignet, on voyait le sang couler sur son poignet. Il a été blessé à un pied. Hier soir, ça rendait au visage. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, moi Mario, il dit quand là, t'es toujours blessé là. C'est le temps de prendre ta retraite parce que t'es jamais à bonne place au bon moment.
Ben écoute, s'il devait gagner la Coupe Stanley à 42 ans, mais faut dire qu'à 6 pieds 9, puis je sais pas combien de livres, là, ça fait une grosse cible pour se faire pogner par la rondelle, Mario.
C'est sûr, mais il faut lui donner beaucoup de crédit. Puis tu sais, des fois, là, ils ont les cancans, Weber commence à ralentir, c'est ci, c'est ça. Évidemment, c'est pas encore le plus rapide défenseur. Mais vous irez mettre les patins et jouer contre Shea Weber demain matin ou demain soir là, pour le fun. Puis vous, quand il va vous accrocher dans le coin de la patinoire, là, vous viendrez pas me dire qu'il a perdu de la rapidité. Bah, si on regarde Chara, pour revenir à Chara à 42 ans, c'est sûr que c'est pas le plus rapide, mais c'est des gars, des joueurs de hockey avec tellement d'expérience. C'est des gars qui connaissent la partie. Ils savent où tu sais, on dit bien souvent dans le hockey, là, c'est savoir où se placer dans un match de hockey. Ces bonhommes-là, avec l'expérience qu'ils ont, Mario, ils ont aucun problème. 6 pieds 9, la portée qu'il a toujours le bâton sur la rondelle du joueur adversaire. Alors, demeurent quand même des gars qui sont très, très, très efficace.
Tu parles de Shea Weber. Mon opinion personnelle que j'ai tenté de valider avec des gens autour de l'équipe, moi, je pense que Shea Weber va être meilleur la saison prochaine. Je parle dans son jeu d'ensemble parce que il n'y a pas eu un été normal de camp d'entraînement l'an passé. Non. Il était en réhabilitation et il n'y a vraiment pas eu un été. Mais je suis convaincu qu'il connaît un été incroyable au niveau de l'entraînement. Alors, je pense que ça va faire une différence, pas juste au début de la saison, mais quand on va pogner le mur là, quelque part après les fêtes, janvier, février, mars. Et je suis, en tout cas, tu sais, il ne deviendra pas le gars le plus fluide ou un patineur artistique, là, mais je pense que ça va lui permettre d'être plus constant pendant toute l'année.
Ben, j'abonde dans le même sens que toi, je pense que tu touches un excellent point, Mario. Puis c'est vrai, là, tu sais, quand t'es blessé, souvent, t'as pas eu de camp d'entraînement, t'es revenu, il s'est blessé un peu aussi à gauche et à droite. Mais, puis en plus, tout le monde le sait, ou pour ceux qui ne le savent pas, Shea Weber, là, c'est un maniaque de l'entraînement, et tout dans le gym, c'est un exemple pour tout le monde. Il l'a fait avec l'équipe Canada, et c'est là un peu que ça ressort de tout ça, la forme physique de Shea Weber. Et c'est l'une des raisons également pour laquelle, lorsqu'on parle de Zdeno Chara aussi à 42 ans, tu sais, ces gars-là ne jouent pas au hockey pour rien, c'est parce qu'ils s'entraînent comme des machines. Ils sont dans le gym, puis je pense que les jeunes qui voient ça, un gars de 42 ans, qui s'entraîne comme un forcené, alors c'est sûr, parce que pour être un bon joueur dans la Ligue nationale, tu peux être bon junior, mais pour être un bon joueur dans la Ligue nationale, il faut que tu sois trois fois meilleur que dans les rangs juniors pour avoir une longue carrière dans la Ligue nationale.
Tu faisais allusion au fait que s'il avait joué à Montréal, là, maintenant on accrocherait son chandail. C'est sûr que c'est ça qui l'attend à Boston, puis... Patrice Bergeron également, puis il y en a peut-être d'autres qu'on peut inclure là-dedans, mais quand tu considères que les Bruins n'avaient pas gagné la Coupe cette année depuis le début des années 70 avec Orr et Esposito, donc qui ont renoué avec la Coupe seulement dans la dernière décennie, c'est sûr que ces gars-là vont aller, bon, les chandails seront retirés, éventuellement, c'est des candidats au Temple de la Renommée sans aucune hésitation.
Ben oui, sans aucun doute, là, on regarde ça, la longévité, la carrière, puis en plus, j'étais content, j'ai vu ça sur Athlétique,
le journal Athlétique.com.
Ouais, c'est ça effectivement. Alors Patrice Bergeron a rencontré des prospects, là, des jeunes qui ont rencontré l'organisation des Bruins de Boston. Alors imaginez-vous, là, t'as un jeune de 17 ans là, t'en vas au repêchage, t'as la chance de rencontrer Patrice Bergeron et Patrice leur a donné comme conseil ceci. Les boys, quand vous allez atteindre la Ligue nationale, profitez-en, parce que ça passe très rapidement. Puis c'est donc vrai. Tiens, Patrice, à 15e saison dans la Ligue nationale. Et moi, quand je suis arrivé de Canadien également, Gilles Tremblay, le commentateur qui est malheureusement décédé maintenant, m'avait dit la même affaire. Mario, profite-en, parce que tu vas voir qu'une carrière de hockey, ça passe vite. Alors, moi, j'ai joué seulement 12 ans en raison d'une blessure à mon épaule. Mais effectivement, ça passe vite, 12 ans, puis je pense que là-dessus, c'est vraiment important d'en profiter dans une belle carrière dans la Ligue nationale de hockey.
As-tu vu Brett Hull hier avant le match craquer les partisans? Il avait l'air de bonne humeur, Brett.
Oui, il avait l'air de bonne humeur. D'après moi, il avait quelques petites Bud Light de prix, mais c'est le fun pour lui, il trippe, là, puis c'est
bon. Ben, je comprends donc.
J'avais Wayne Gretzky qui était là aussi, on a vu Wayne accompagné de Batman, puis c'est bon parce qu'il invite aussi des anciens des Blues qui ont joué là, même si Wayne n'a pas quand même joué longtemps, il a joué peut-être une quarantaine de parties, mais c'est le fun à voir. Il y a beaucoup d'ambiance, puis j'espère que ça va se rendre jusqu'à la limite.
Tu me disais que tu commençais peut-être à avoir un petit doute sur Bennington pour la suite des choses, par exemple?
Hier soir, je me disais, les Blues, lancer au filet, parce que je sens Bennington, c'est pas le même Bennington que j'ai vu contre les Sharks de San Jose. Évidemment, et c'est sa première expérience dans la finale de la Coupe Stanley. Est-ce que la pression est après le gagner un peu? Est-ce qu'il est fatigué un peu? Alors, il y a plusieurs points d'interrogation qu'on peut placer sur Bennington. Mais comme j'ai dit tantôt, les Blues ont seulement eu 23 tirs au but contre les Blues. Mais l'affaire là-dedans, ce que j'aime pas de Bennington, c'est ses retours de lancer.
Oui.
Il est pas capable de garder la rondelle dans son plastron.
Hier, tu remarquais la quantité de buts marqués sur des retours, mais des deux bords, sur Bennington.
Raison, puis Tuukka Rask aussi.
Oui, mais fallait tout un réflexe pour être chanceux à bonne place au bon moment. O'Reilly, quand il récupère le retour de lancer, l'arrêt du bloqueur, là, direct sur la palette, écoute, c'est une fraction de seconde, ça, là.
Ben, c'est pour ça, Mario, que je te dis souvent que lancer au filet, c'est jamais un mauvais jeu. Si on sait pas quoi faire avec la rondelle, allez, envoyez la rondelle au filet. Puis d'autant plus que dans l'hockey d'aujourd'hui, les entraîneurs, qu'est-ce qu'on dit aux joueurs? Allez au filet, allez, puis mettez les freins. Les retours de rondelles s'en vont directement devant le filet. Alors c'est ça, puis autant des Blues que du côté des Blues hier soir, les buts qui ont été marqués, ça a été des retours de lancer, et c'est la façon dont on a marqué nos buts.
Ça fait une couple de semaines que je vous parle d'Eric Carlson. On en a parlé ensemble, Mario. Tu t'es dit très ouvert à l'idée que Carlson puisse venir à Montréal si lui le souhaite, bien sûr, oui. Parce que on le sait que ce sont les joueurs, les gars de ce calibre-là, ce sont eux qui choisissent. Et là, t'as pris connaissance de l'article en provenance d'un journal d'Ottawa. Qui nous dit que, en tout cas, selon ces informations du gars, nous autres, on spéculait sur la possibilité, mais semble-t-il que Carlson souhaiterait recevoir une offre du Canadien de Montréal.
Ben tant mieux. Puis comme tu as mentionné, on en a parlé également la semaine dernière. Tu sais, quand t'as des joueurs de calibre qui deviennent joueurs autonomes, puis si moi honnêtement là, ça c'est une impression très personnelle. Si Carlson ne voulait pas venir à Montréal, il aurait pas dit ça. Tu comprends? On sait que sa femme vient d'Ottawa. Alors c'est sûr que lui, il a plus d'offres qu'il va recevoir. Après ça, il va être capable de les étudier. Mais si tu regardes un gars comme Eric Carlson, dans les séries, là, il a quand même récolté 16 points en 19 matchs.
C'est une jambe. Après, il était blessé à l'aine.
Puis il était blessé à l'aine en plus. Puis dans la saison, il a joué seulement 53 matchs. Mais merde, il a ramassé 53 points. 3 buts, 42 passes, tu sais, pour 45 points. Alors, à quelque part...
Popée moyenne, tu te souviens, il y a deux ans, pas plus tard qu'il y a deux ans, il a amené Ottawa presque à lui tout seul. Je veux pas enlever de crédit à personne. En finale de conférence. 18 points en 19 matchs.
Non, c'est un joueur d'élite. Puis si jamais Marc Bergevin était capable de signer ce gars-là, je pense que de un, ça réglerait le problème de l'avantage numérique. Ça, c'est sûr et certain. Et de deux, imaginez-vous, là, comme je t'ai mentionné la semaine dernière, les joueurs du Canadien, Price, Weber, ces gars-là, Petrie, s'ils apprenaient demain matin que Marc Bergevin a réussi à mettre la main sur Eric Carlson, imaginez-vous un nouveau souffle qui viendrait dans le vestiaire du Canadien. Non seulement dans le vestiaire, mais du côté des partisans aussi. Tu sais, les partisans, là, oui, on est patient, on parle de jeunesse, on met les attentes un peu basses, c'est correct aussi, mais à quelque part, là, c'est bien beau d'avoir les attentes basses, mais je pense que pour l'an prochain, moi personnellement, puis toi aussi, on aimerait beaucoup voir les Canadiens faire les séries éliminatoires, là, à un moment donné.
Et je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on doit automatiquement échanger Petrie parce qu'on amène Eric Carlson. Pourquoi? Ben là, parce que là, les gens font des déductions, les trois à droite, il n'y a pas un de ces trois gars-là qui va jouer sur une troisième paire, il n'y en a un qui peut jouer à gauche, mais en tout cas, va donc le chercher pour s'arranger après, OK?
Oui, je suis bien d'accord avec toi. Amène-les, là, puis après ça, on s'ajustera.
Claude Julien
a payé 5 millions par année, c'est à lui de trouver des solutions.
Hey, si Jordy Ben est capable de jouer sur le bord opposé, j'espère que ce gars-là a assez de talent pour être capable de se débrouiller.
Arrêtez-moi ça, là, s'il vous plaît, là. Comment?
Alors, mon cher Mario, merci beaucoup de cette belle jasette, comme d'habitude. Une bonne soirée, puis on se reparle cette semaine.
OK, mon chum, à cette semaine, bye.
Merci, salut Mario.
Bye.